RCFM, 20 minutes, l'émission politique.
Et bienvenue dans 20 minutes sur RCFM, votre émission politique du jeudi. Aujourd'hui, notre invité, Emmanuelle De Gentili, première adjointe au maire de Bastia, première secrétaire fédérale du Parti Socialiste de Haute-Corse, élue nationale d'ailleurs de ce même parti. Bonsoir Emmanuelle De Gentili.
Bonsoir.
Une première question, bien sûr, sur les faits qui se sont déroulés hier soir, cette fusillade à Loupine, un bilan très lourd, un mort, cinq blessés. Vous étiez, j'imagine, sur le terrain hier, aujourd'hui.
Oui, effectivement, j'étais sur le terrain pour soutenir à la fois les familles qui se manifestaient et surtout les équipes qui ont été présentes et très professionnelles depuis le début de la séquence. Et je voudrais vraiment remercier l'ensemble de la coordination des équipes, que ce soit de l'État et de tous les organismes qui ont pu intervenir, parce que c'est quand même un moment très douloureux pour notre ville et pour ce quartier en particulier.
Justement, quel sentiment domine aujourd'hui ? C'est le désarroi, la consternation peut-être ?
C'est l'incompréhension. L'incompréhension qui domine, puisqu'on parle souvent de la Corse comme d'un espace protégé, où il y a beaucoup de solidarité, des solidarités familiales, et ce fait divers, quelque part, met en exergue le fait qu'aujourd'hui, il y a l'histoire de la Corse, mais il y a aussi une situation qui se normalise par rapport à ce qui se passe sur le continent. Et cette situation ne fait que montrer au grand jour qu'il y a quand même des tensions et des difficultés humaines qui aujourd'hui peuvent déraper. Et j'espère que ça ne se reproduira jamais.
Oui, c'est vrai que ça parle effectivement du lien social à Bastia, oui, quoi, de la qualité du lien social qui est pas forcément, enfin, qui se dégrade peut-être.
Qui comme par ailleurs, c'est-à-dire les difficultés d'emploi, les difficultés, je parlais des solidarités familiales. Auparavant, il y avait les grands-parents qui soutenaient les enfants, les petits-enfants. Aujourd'hui, les grands-parents sont dans les mêmes difficultés financières, donc il n'y a plus ce cocon qui permettait de stabiliser vraiment une famille. Aujourd'hui, tout le monde est en difficulté et quelque part les liens se distendent, les familles sont plus décomposées, souvent se recomposent, mais c'est quand même dans la difficulté. Plus toutes les problématiques que nous voyons aujourd'hui avec les gilets jaunes et toutes ces questions de pouvoir d'achat, de qualité de vie, de conditions de vie qui font qu'aujourd'hui on ne supporte plus rien, c'est que c'est quand même très compliqué et il y a un travail de terrain, il y a un travail de proximité pourtant qui est fait. Les travailleurs souvent ont témoigné sur le fait qu'ils passaient beaucoup de temps à dialoguer avec les habitants et que des fois ils avaient l'impression d'être inutiles parce qu'ils n'avaient fait que dialoguer, mais peut-être qu'en fait ils ont souvent réussi à désamorcer des situations qui auraient pu être peut-être plus tendues parfois.
Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des politiques, j'allais dire, résolument hardies, peut-être, en matière de logement, de rénovation de ces quartiers ?
Écoutez, en matière de rénovation, Bastia, depuis très longtemps, hein, d'ailleurs, ça ne date pas de notre mandature, hein, même bien avant, il y a quand même eu des investissements colossaux. Hein, le PRU, c'est 100 millions d'euros sur la ville de Bastia, c'est très très important. Aujourd'hui, nous travaillons sur un nouveau programme de 45 millions d'euros pour la cité Aurore. Ce sont des montants très importants au regard de ce qu'on peut constater à Marseille et par ailleurs. Donc aujourd'hui, on ne peut qu'essayer d'aller vite pour ne pas perdre justement ces dotations qui peuvent nous permettre de résorber un certain nombre de choses. Mais la rénovation, ce n'est pas tout, c'est la cohésion sociale qui compte. Parce que souvent, ces dégradations amènent ou sont la conséquence d'autres problématiques et souvent liées à l'humain. C'est-à-dire qu'il faut remettre du lien, il faut arriver à recréer des nouvelles solidarités aussi, puisqu'on voit qu'on est dans une société complètement individualiste et qui en fait même l'apologie. Et il y a vraiment un travail et là-dessus, le tissu associatif dans les quartiers est très présent et fonctionne déjà très bien, mais c'est toujours insuffisant.
Alors, on reviendra bien sûr sur ce sujet dans une deuxième partie de l'émission. Tout de suite, ça va être notre dossier. Et on parle dans ce dossier du peut-être nouveau port de Bastia.
20 minutes, le dossier.
On en parle depuis plus de 10 ans, un nouveau port pour la ville de Bastia. En 2007, c'est le site de la Carbonite qui est retenu à l'issue du débat public sous la mandature de gauche. Mais le projet est très coûteux, plusieurs centaines de millions d'euros. Il nécessite des études complémentaires, environnementales notamment. Le site de la Carbonite est couvert de posidonie et pourrait avoir, en modifiant les courants, des conséquences à long terme sur la forme de la côte orientale de l'île. Dès 2015, la nouvelle mandature nationaliste reprend le dossier avec réticence, lance même des pistes alternatives, extension de digues ou barges semi-flottantes, autant de projets qui nécessitaient également de nouvelles études. Et depuis, plus rien aux grandes dames de l'opposition bastiaise, et notamment de Jean Tsoukarelli, fervent défenseur du port de la Carbonite.
Ces études, on nous en promettait les résultats dès la fin 2017, puis à l'été 2018, elles n'ont pas été rendues publiques, et maintenant il sort une énième carte de son chapeau pour dire que le temps du débat public qui remontait à 2007 et s'est écoulé, qu'il faut repasser par cette étape. Autrement dit, nous pourrions finir la mandature 2014-2020 sans avoir de décision sur le port. Nous sommes encore une fois devant l'indécision, cette incapacité à décider en compromettant l'avenir de Bastia et de la Corse. J'ajoute que les études auraient bel et bien été rendues, pas publiques, mais à la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire à la CTC, et bien sûr confirmerait les orientations prises antérieurement. Que nous demandons maintenant, une nouvelle fois, instamment au président de l'exécutif et au maire de Bastia de donner une position.
Un nouveau port pour la ville de Bastia, c'est aussi une demande des socioprofessionnels. Le président de la commission projet Grand Port à la CCI de Haute-Corse est très clair. On se ralliera à tous les avis techniques, mais l'important c'est vraiment de faire un port. Pour l'instant, on en semble encore loin en raison de l'incapacité à décider de la majorité bastiaise et territoriale. C'est ce que dit François Tati, conseiller municipal d'opposition et président de la CAB.
Ce projet de port qui était urgent il y a déjà 20 ans, aujourd'hui, il devient extrêmement problématique. Pas de décision, absence d'orientation et de stratégie, des études votées sous l'ancienne mandature à l'Assemblée de Corse dont on ne voit pas encore le résultat. C'est un désintérêt total pour ce que ce projet pourrait amener au développement de Bastia et de la Corse. Nous avons besoin effectivement que ce port soit rapidement construit. Nous avons besoin de cette dynamique économique. Nous avons besoin que l'avant-port de Bastia soit réaménagé. Nous avons besoin de revitaliser le cœur de ville. Nous avons besoin de faire avancer cette ville. Et malheureusement, sur ce projet qui est un projet emblématique, on ergote, on mégote dans quelques mois. Nous allons avoir une belle concertation publique à nouveau sur des projets, sur des hypothèses de travail, etc. L'objectif de cette majorité et à la fois au plan municipal et au plan territorial, c'est de ne pas décider.
Une indécision qui, compte tenu du temps administratif et électoral, risque bien de repousser toute action sur ce nouveau port, bien après les futures échéances territoriales.
RCFM, Bintiminoudi, l'émission politique.
Manuel de Gentil, un nouveau port ou pas à Bastia?
Alors permettez-moi de sourire hein, quand j'entends les opposants, l'argumentaire des opposants, puisque M. Tati parlait de 20 ans pendant lesquels depuis lesquels nous attendons le port. Et donc, c'est dommage qu'il n'ait pas été fait pendant ces 20 ans, qu'on nous demande, nous, en quelques années, de régler toutes ces questions qui sont latentes et qui ont fait rêver les Bastiais pendant de si nombreuses années. Donc, plus sérieusement, donc deux niveaux de réponse. Un niveau de réponse sur la nécessité que Bastia ait un nouveau port, un port suffisamment dimensionné, qui soit aux normes européennes et surtout environnementales. Donc ça, c'est évident. Donc en ce qui me concerne, à titre personnel, j'ai toujours défendu le port de la Carbonite, donc je n'ai pas changé d'avis. Aujourd'hui, je suis dans une majorité, nous avons un contrat de mandature, et par rapport à ce contrat de mandature, bien entendu, je ne suis pas fermée à toutes les propositions qui peuvent être faites, si on arrive à me convaincre que d'autres alternatives sont meilleures et permettraient de régler l'ensemble des problématiques, à savoir le désenclavement de la ville, la mise en valeur de la ville, etc. etc. Donc, aujourd'hui, la décision relève effectivement de la collectivité de Corse. Est-ce et en tant que ville de Bastia, la seule chose que nous faisons, c'est de travailler sur notre PLU, puisque nous sommes en refonte de PLU, et nous travaillons sur les deux pistes pour justement ne pas perdre de temps au niveau de la municipalité. Et donc, si le port de Bastia se faisait, par exemple, dans la même enceinte en étant élargi, il faudrait avoir une stratégie de désenclavement, parce que le tunnel actuel ne suffirait pas pour le trafic, effectivement. Et si le port se faisait à la Carbonite, il faudrait que nous ayons une autre stratégie d'alimentation, je dirais, rivière de la ville. Et donc, nous travaillons à cela. Et en plus de cette alimentation rivière, s'il s'agissait de la Carbonite, il faudrait aussi que nous travaillions encore plus rapidement sur l'attractivité de la ville. Puisqu'aujourd'hui, il y a des touristes qui débarquent à Bastia pour aller à Porto Vecchio, c'est qu'ils ont vraiment envie d'aller à Porto Vecchio. Donc, l'idée que le port de la Carbonite ferait perdre à Bastia une certaine attractivité est une erreur aussi. Donc, là-dessus, les positions sont diverses, donc je vous fais remarquer que ça montre aussi la capacité de la majorité dans la diversité de rapprocher les points de vue et de travailler à tout cela
mais
ensemble.
Mais ça n'avance quand même pas très vite. En tout cas, on n'a pas de nouvelles de ces études, effectivement, dont on parlait.
Je suis désolée de vous dire que ça, c'est une question qu'il faut poser à l'Assemblée.
Bien sûr,
à la
mais
collectivité
en tant que
Corse,
municipalité de Bastia, vous pourriez avoir en tout cas des informations que nous n'avons pas. En tout cas,
nous, 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 faisons, nous faisons remonter au fil de l'élaboration du PLU les difficultés que nous rencontrons, les possibilités que nous avons pour pouvoir désenclaver d'une part et d'autre, puisque nous pensons aussi que ces solutions peuvent influencer aussi le choix, puisque imaginons qu'il n'y ait pas de solution pour creuser des tunnels pour désenclaver la ville, il serait peut-être difficile d'imaginer le port maintenu au même endroit.
Oui, c'est ça.
Donc voilà, il y a des échanges techniques, mais aujourd'hui le là va être donné par la collectivité de Corse. Et là-dessus, nous n'avons pas la main, même si ce sont des personnes qui nous sont proches politiquement.
Quelle autre voie de développement pour la ville de Bastia ?
La ville de Bastia a plusieurs axes de développement, particulièrement l'environnement et tout ce qui est transport doux, puisque l'idée que nous souhaitons, c'est de pouvoir rendre la ville aux piétons, de pouvoir progressivement faire reculer la voiture du centre-ville pour pouvoir redynamiser économiquement la ville. Et vous avez bien vu, nous nous sommes positionnés dans le cadre du projet Cœur de Ville, puisque même si nous avions commencé à y travailler, il y a quand même des grosses lacunes, et je ne peux que regretter les choix d'aujourd'hui de la CAB qui vont permettre d'ouvrir de nouvelles zones industrielles à Herbajol, alors que nous aurions privilégié plutôt des bureaux et une autre typologie d'activité, puisqu'on ne peut pas d'un côté dire qu'on veut défendre l'activité économique de proximité et ouvrir des grandes surfaces en périphérie directe de cette zone. Aujourd'hui, il faut renforcer, il faut rassurer le centre-ville, il faut apporter une qualité de vie, il faut détendre la pression qu'il y a sur la circulation et sur le stationnement. Alors d'un côté, il y a le transport qui relève de la communauté d'agglomération et M. Milan y travaille en ce sens. Et de l'autre côté, nous, ville, nous travaillons sur toutes les questions, circulation, dialogue avec les livreurs pour essayer de trouver de meilleurs horaires pour détendre un petit peu la pression sur le stationnement, puisqu'il y a des encombrements liés aux livraisons. Et nous avons développé un projet de smart parking que nous allons livrer en première expérimentation au mois de juin dans la ville.
C'est quoi le projet phare de votre mandature, de cette mandature ? On entend souvent une ville qui s'endort, peut-être une ville en panne de projet. On entend même des fois des entrepreneurs qui disent qu'ils sont obligés d'aller travailler dans le sud parce que la commande publique, notamment dans le BTP, est en baisse sur la ville. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? D'abord, est-ce que c'est une réalité ou...
Je pense que ce n'est pas une réalité au vu des chiffres que nous avons là sur le bilan du travail de la municipalité cette année et sur ce qui est projeté au budget que nous allons présenter dans un mois. Donc je crois qu'il faut laisser le temps au temps et il faut regarder les choses avec un petit peu de recul. Quand il y a une majorité qui arrive et qui bouscule autant que ça l'a été en 2014, avec des changements profonds à la fois d'un point de vue des élus et d'un point de vue de l'administration, forcément il y a des difficultés et il y a des projets qui sont dans les tuyaux. Alors il y a deux choix. Il y a le choix de tout stopper et de repartir avec une feuille blanche pour pouvoir immédiatement...
Vous avez quand même mené à bien un certain nombre de projets.
On a mené à bien les projets et bien entendu c'est tout à fait normal, de la même manière que quand on est arrivé à l'Assemblée de Corse en 2010, on a poursuivi des projets initiés par l'ancienne mandature. Et donc, j'ai du mal quand j'entends que les projets ont été pensés par d'autres, on les a faits. Donc, il y en a qui en ont parlé beaucoup et qui ne les ont pas faits. Et nous, effectivement, on les a réalisés. Donc, je ne sais pas s'il vaut mieux penser ou agir. Donc, moi, je suis plutôt dans l'action et je crois que notre mandature, elle est vraiment sur ce champ-là. Donc, nous ferons un bilan de toute façon de tout cela pour montrer un petit peu aussi dans le temps. Quand on a livré un musée en 13 ans et que nous allons livrer certains projets dans le temps de la mandature, je pense que la comparaison, elle sera quand même assez criante. Donc, il faut laisser le temps au temps et ne pas nous demander de régler en 4 ans ce que d'autres n'ont pas réglé en 30 ans.
Alors, quand on vous entend, on se rend bien compte que, au sein du conseil municipal, depuis quelques temps, c'est déjà un petit peu... La campagne électorale. On a l'impression d'ailleurs que l'opposition commence un petit peu à faire bloc, je dirais, en tout cas dans ses votes. Comment est-ce que vous envisagez, vous, les futures échéances, justement, municipales notamment ?
Écoutez, aujourd'hui, nous ne sommes clairement pas encore dans la campagne électorale. Nous sommes justement dans l'action et je crois que ça serait même une insulte pour les habitants que de nous lancer si loin de l'échéance dans des querelles vraiment électoralistes. Ce n'est pas du tout le but. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que nous avons une majorité qui s'est renforcée malgré le départ de Gilles Simeone, qui n'est pas très loin d'ailleurs, puisqu'il soutient très bien tout ce que nous faisons. Il y a un travail qui s'est réorganisé avec Pierre Saville, qui n'était pas le candidat que nous avions au départ choisi, mais qui s'est imposé comme un maire avec lequel nous arrivons à travailler, et la majorité est très soudée. On a même vu, donc, à l'occasion du vote sur cette zone industrielle, Jean-Louis Milan, qui pourtant est libéral, qui aurait pu avoir naturellement d'autres choix, se tenir dans dans les engagements de la plateforme municipale. Donc on voit qu'il y a quand même une cohésion, une loyauté dans le travail municipal, et c'est au bénéfice, et c'est surtout très bien pour les habitants, puisque ça permet d'éviter certaines querelles inutiles pour qu'on puisse se concentrer sur l'action au quotidien. Et je crois que nous avons beaucoup à faire.
Et comment vous vous positionnez personnellement, j'ai envie de dire, en tant qu'élu socialiste
oui.
Vis-à-vis d'une opposition de gauche?
Alors, je suis très claire là-dessus. La différence entre eux et moi, c'est que moi, j'ai toujours été dans un parti qui a toujours tendu la main pour essayer de faire tomber les barrières. C'est-à-dire que je ne suis pas dans ces clivages qui opposent les gens, mais au contraire, j'essaye de trouver les convergences. Et aujourd'hui, l'échec de la gauche en général, elle est que pendant une vingtaine d'années, on a toujours cherché les points de convergence pour pouvoir avancer ensemble. Et que depuis quelques années, il y a certains petits chefs qui pensent qu'en montrant que les différences, ça les grandit. Et au lieu de les grandir, ça les fait disparaître. Et ça fait disparaître cette cohésion qui permettait à des gens qui pensaient des choses légèrement différentes de pouvoir trouver un chemin commun pour avancer ensemble. Et c'est vraiment la même chose ici. Aujourd'hui, moi, je suis celle qui a été capable de dire je peux construire avec d'autres, parce qu'on a un chemin commun, on a un projet commun au bénéfice des habitants.
20 minutes, l'émission politique.
On s'en dépasse un petit peu, Bastia. La région, d'abord, rapidement, comment est-ce que vous qualifieriez l'action de la majorité nationaliste à la CDC?
Alors, je pense qu'on n'a pas à qualifier en plein milieu d'un mandat une majorité.
On peut quand même avoir un avis.
Oui, je vais vous donner mon avis, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'habitude de faire de la langue de bois. Je crois que le cumul de la non-expérience de la gestion, plus les difficultés de mettre en place une collectivité de cette importance.
C'est ça, la fusion des trois collectivités
qui ne sont pas de même niveau, je crois que c'est quelque chose de compliqué. Alors, c'est sûr que lorsqu'on est à l'extérieur, c'est facile de critiquer, mais pour avoir été au conseil exécutif, j'ai pu mesurer les difficultés et toute l'inertie mécanique de ce type de machine. Alors, la collectivité de Corse, de par ses compétences, c'est un outil magnifique. C'est un outil qui a plus de compétences que toutes les autres régions de France, donc elle peut faire beaucoup. Pour faire beaucoup, il faut une volonté. Il faut aussi pouvoir mettre en œuvre et utiliser tous les artifices. Mais il faut aussi être soutenu et avoir des rapports apaisés avec l'État, avec un certain nombre d'interlocuteurs, puisque sinon, mécaniquement, on peut toujours freiner un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, je ne peux que regretter que la position du gouvernement, elle soit aussi fermée par rapport à des efforts qui ont été tentés par Gilles Siméogne, qui a bien fait la démonstration, ne serait-ce qu'avec nous, de vouloir construire avec des gens qui n'étaient pas forcément nationalistes, puisque nous revendiquons le fait de ne pas être nationaliste, mais d'être compatible avec.
On a l'impression qu'il y a un gouvernement par le symbole quand même un petit peu.
Mais effectivement, aujourd'hui, il y a d'un côté des symboles, effectivement aussi de la part de Gilles Siméogne et de Jean-Guy Talamone. Hein, ils ont leur problématique à mettre en avant, et en même temps il y a un développement à construire. Donc c'est arriver à faire coïncider ces deux aspects, et je pense que ni les uns ni les autres ne peuvent rester campés sur des positions, parce qu'il faut pouvoir faire avancer la Corse. Donc là-dessus, je pense que Gilles Siméogne est dans la situation de vouloir faire des efforts, mais je ne ressens pas cet effort de l'autre côté.
18h27, presque 28 minutes, plus beaucoup de temps, Emmanuel De Gentil, un mot quand même de cette situation nationale, le mouvement des Gilets jaunes, et puis les thèmes qu'ils ont imposés au débat. D'abord, le mouvement en lui-même, qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce que vous en pensez rapidement?
Alors, je ne me permettrai pas de juger le mouvement, hein, puisque moi, de là où le peuple est, il n'y a pas de problème, je trouve ça tout à fait légitime. Les problématiques qu'ils défendent, ce sont des problématiques qui sont très très importantes, et au contraire, je trouve que c'est une manière de se réimpliquer dans la vie de la cité, et il était très important de sortir de cet abstentionnisme et de cette négation de l'action démocratique. Et donc je crois que là il y a une prise de conscience qu'ils peuvent se fédérer, qu'ils peuvent s'organiser. Maintenant, ce que je peux regretter, c'est le fait qu'ils veulent rester enfermés entre eux, et quand même entre eux qu'il y ait un système de caste entre des gens qui se considèrent différents les uns des autres et qui ne peuvent pas représenter les autres. Donc là-dessus, c'est un peu la divergence avec une position nous de parti politique qui essaye de s'ouvrir, qui essaye de rassembler, qui essaye de convaincre au-delà de ces lignes.
Le message principal, à votre avis, des Gilets jaunes, c'est quoi? C'est plus de justice sociale ou c'est un message de crainte qu'ils envoient pour leur avenir?
Je crois que c'est un petit peu les deux. Comment peut-on se projeter quand, dès le premier du mois, on sait qu'on n'a pas de perspective le 2 du mois? Donc, c'est quand même très compliqué. Et quand, en plus, on a l'impression d'être face à un mur aveugle et qu'il n'y a pas du tout d'interlocuteur ni de prise en compte des problématiques du quotidien. Quand on voit aujourd'hui la loi sur la consommation qui augmente de 10% les produits de première consommation, alors qu'on est en plein débat sur cette question, on peut s'interroger sur la compréhension mutuelle. Donc je trouve légitime leur position et leur inquiétude.
Dans ce contexte, rapidement, évidemment, les élections européennes du mois de mai, vous les envisagez comment? Vous les voyez comment? Vous craignez justement de monter des populismes, euphémismes parfois pour fascisme?
Oui, clairement, je pense que ça va être un rendez-vous manqué avec l'Europe, puisqu'effectivement, je pense qu'on n'a pas besoin de moins d'Europe, mais de mieux d'Europe. Et pour construire mieux d'Europe, il aurait fallu pouvoir balayer l'Europe de Juncker, qui est celui des paradis fiscaux, et aller vers une Europe plus juste. Mais pour aller vers une Europe plus juste, il faut que soi-même, on soit apaisé. Il faudrait être apaisé dans son propre pays et j'ai peur qu'on ne réponde pas à la bonne question et qu'effectivement le fait qu'il y ait eu cette désintégration des partis de gauche avec tout ce que je vous ai présenté auparavant sur le fait d'exacerber les différences au lieu de travailler sur les convergences fait qu'aujourd'hui il va y avoir un monde virtuel, c'est celui de Macron qui fait croire qu'il est un petit peu partout et il est nulle part, il n'écoute personne et de l'autre côté des extrêmes qui essayent de se mesurer pour essayer de prendre une part du gâteau. Et c'est le modèle qu'on voit partout en Europe. Et chaque fois qu'on en parle, on nous dit « Non mais là-bas, c'est différent. » Non mais il n'y a rien de différent. On est sur la même trajectoire et elle est inquiétante. Donc il y a une place pour les partis traditionnels, les partis républicains, les partis de gauche et de droite qui doivent reprendre et qui doivent tendre la main pour aller vers ce socle commun, ce socle de valeurs.
Merci beaucoup Emmanuel Gentil d'avoir été notre invité ce soir. Notre émission, bien sûr, est à retrouver sur nos réseaux sociaux, notre application, notre site internet Bleu RCFM. Binti Mahmoudi qui revient la semaine prochaine. Patrick Vinciguerra recevra le sénateur de la Corse du Sud, Jean-Jacques Panuzzi. Je vous laisse dans quelques secondes en compagnie de Davia Bourgeois. Bonne soirée sur RCFM.